Pour lui, les plus petits détails comptent. La perfection n'est pas ce monde, mais il y a quand même Guillaume Lavoie.
C'est le moment de parler à notre chroniqueur à la vie nationale, Philippe Larange. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Philippe, il se passe beaucoup de choses dans la nation. Alors, commençons par, mon Dieu. Et là, tu sais que c'est mon alma mater, alors je suis un peu embarrassé. Qu'est-ce qui se passe à l'Université Laval, là?
Eh bien, ces temps-ci, ce qu'on voit, ça circule sur Twitter. Il y a deux professeurs, une professeure de géographie, l'autre de sciences politiques, qui insultent de manière extrêmement méprisante des intellectuels connus. Le premier en question, c'est l'historien Frédéric Bastien, qui intervient notamment au Bloc du Journal de Montréal, et ici même à Cube Radio. Bon, Frédéric Bastien, pour rappeler un peu à nos auditeurs, c'est un grand historien qui a quand même marqué le Québec une dizaine d'années avec sa publication La Bataille de Londres, parce qu'il avait rouvert les archives sur les négociations sur le rapatriement constitutionnel. Ça avait forcé un débat politique extrêmement important au Québec une dizaine d'années. Donc, c'est quelqu'un de très connu, un patriote, un militant pour la cause nationale, qui l'a depuis longtemps. C'est quelqu'un de respecté. C'est un historien reconnu. Puis là, bon, il y a un nouveau poste qui était offert à une chaire de recherche du Canada à l'Université Laval. Et cette chaire-là disait, ben, pour le poste
juste pour être clair, Philippe, quand on dit chaire de recherche du Canada, ça veut dire financé par des fonds fédéraux.
Ouais.
Et il y en a dans à peu près toutes les universités sur divers sujets, là.
Absolument.
Celle-là traite d'histoire Québec-Canada. Mm-hmm. Et elle était, elle est toujours abritée ou installée à l'Université Laval.
Exactement. Et puis, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la direction était justement à la recherche d'un poste. Puis bon, ben le poste en question disait, ben là, nous, on recherche des personnes qui sont pas blanches, qui sont pas un homme, puis qui sont peut-être un handicapé. Donc là, Frédéric Bastien disait, ben moi, j'ai les compétences pour appliquer, mais on me discrimine, on m'exclut sur la base de ma couleur de peau.
Parce que là, c'est pas écrit, je disais plutôt, c'est pas de la discrimination positive où la préférence sera donnée à mm-hmm. quelqu'un venant de X, Y, Z. On dit, vous devez, pour vous qualifier, être soit une femme, soit quelqu'un de racisé, soit quelqu'un homosexuel ou qui s'auto-identifie, c'est encore plus particulier. Sinon, donc, vous êtes exclu au départ.
Ça ressemble à ça. Mais là, Frédéric Bastien, justement, il avait déposé une plainte pour dire, ben regardez, moi, je suis un homme blanc hétéro, donc je suis d'emblée exclu. Puis justement, comme tu dis, c'est la discrimination qui est plus juste la discrimination positive qui vise à encourager les gens qui sont pas hommes blancs. Là, c'est carrément, vous avez pas le droit d'être là. La chaire, elle est réservée à ceux qui ne sont pas des hommes blancs.
Ouais, c'est la diversité donc, exclusive, là. Puis, mais ce qui est particulier, c'est, moi, je pensais, peut-être naïvement, qu'il y aurait une levée de bouclier de la communauté universitaire en disant, je peux pas croire que mon université est rendue là. C'est pas ça qui est arrivé, là.
Moi, ben, ça m'étonne que t'ailles penser ça, parce que moi, je m'y attendais pas du tout à une levée de bouclier. Parce que c'est des idées qui circulent depuis un certain nombre d'années dans les universités. Puis quand on parle de ces sujets-là des professeurs, ben, soit qu'ils vont nier le fait qu'il y a des critères EDI qui empêchent les hommes blancs de postuler, ou bien ils vont minimiser en disant, ben, on est juste là pour encourager le fait qu'il y ait d'autres gens que des hommes blancs qui soient là. Donc, une situation comme celle de Frédéric Bastien, ben, ça suscite une réaction comme celle, par exemple, de la professeure de sciences politiques, Saul Tomkinson, qui enseigne à l'Université Laval, et qui a simplement dit, ben, en fait, Frédéric Bastien, c'est un homme blanc médiocre. Donc, elle peut se permettre de dire ça. Mais pourquoi ce propos-là est relativement toléré en société, alors que quelqu'un qui dirait ça sur n'importe quelle autre couleur de peau, ce serait tout de suite condamné et à juste titre? Mais dans le cas de Frédéric Bastien, là, des insultes aussi méchantes que homme blanc médiocre, donc c'est carrément une insulte, raciste, là, carrément, là. Puis ça passe comme une lettre à la poste. Mais, comment dire ça, des moindres cas de gens qui ont dit le mot en haine, mais là, ça c'est du racisme systémique puis c'est la suprématie blanche.
Donc, c'est le double ou le triple standard.
Il ouais.
Y a des insultes qui sont plus graves que d'autres. Moi, je pense, dans un régime de liberté d'expression, tout ça devrait être exactement au même niveau. Mais il n'y a pas juste cette professeure-là, là.
Non, il y a aussi une professeure de géographie, Adèle Garnier, à l'Université Laval aussi. Donc, qui parlait de grands intellectuels publics comme Hélène Buzetti, Mathieu Bocoté, Richard Martiteau, puis qui disait, bon, des gens vieux, moches, méchants.
OK, ça, c'est la professeure d'université qui, on pourrait le dire comme ça, embrasse large, là.
Oui.
A décidé de faire une peinture avec une espèce de rouleau de construction, là, puis de dire, OK, je vais vous peindre avec le même pinceau, comme oui. on dirait en anglais. Vous êtes tous des... C'est quoi les mots?
Vieux, moche, méchant.
C'est bon, ça. OK, ben, c'est assez clair.
Comment dire, c'est parce que c'est... Moi, je me demande comment ça se fait qu'il y a des professeurs d'université. On parle quand même de gens qui seraient censés avoir une éducation. Pas juste une instruction, mais aussi une éducation. Donc, des normes, des politesses. Puis là, on les voit lancer des insultes de basse-cour à des gens qui sont respectés. Après, c'est normal qu'il y ait des désaccords. C'est normal qu'il y ait un débat, qu'il y ait des désaccords même importants, des désaccords de fond. Mais là, de mépriser comme ça, je trouve que ce que ça envoie comme signal, puis d'ailleurs, c'est pas très surprenant, mais c'est que l'université est fermée au débat d'idées. Puis je le constate depuis un nombre d'années, je suis pas le seul à le faire, mais de plus en plus, c'est que ça montre que si vous avez des idées différentes de l'idéologie dominante, du multiculturalisme, bon, de l'ouverture aux frontières, ben tout de suite, vous êtes un vieux, méchant, bon, puis toutes les études qu'on a vues, un homme blanc médiocre.
Mais la tristesse, et en plus, l'université, de par son fonctionnement interne, vient amplifier soit la conformité de pensée, ou certains diraient, il y a un risque de peinture de Goya là-dedans, là. Ça devient consanguin très vite, c'est-à-dire que pour être embauché dans un département, il faut que les gens du département soient d'accord. On pourrait dire, ce qui m'intéresse, un peu à la Danton, là, c'est-à-dire je suis en totale opposition avec ce que vous dites, mais vous le dites intelligemment, vous le dites de manière pertinente, donc je vous veux dans mon département. On pensait par exemple un département d'économie. Vous pouvez avoir un prix Nobel puis être complètement à gauche. Vous pouvez avoir un prix Nobel puis être complètement à droite. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que mes profs gagnent des prix Nobel? Et là-dessus, je pense, c'est Gilles Vigneault qui disait, quand vous êtes à la violence ou à l'insulte, vous manquez de vocabulaire, là. Moi, j'ai pas de problème à ce que les professeurs disent, moi, je suis en faveur avec les critères EDI. Je pense qu'il faut interdire les hommes blancs. À la limite, ils ont le droit de penser ça, de dire ça. Mais si on veut tuer le débat, c'est peut-être parce qu'on n'est pas si sûr de ce qu'on pense.
Non, je pense pas. Ben en fait, ça montre qu'il y a quelque chose aussi, pas juste qu'on n'est pas sûr de ce qu'on pense, mais aussi c'est parce que peut-être qu'on est dans une pensée religieuse aussi, dogmatique. Parce que là, on sait que bon, la société québécoise est sécularisée. Le catholicisme n'a plus la même place qu'avant. Donc, chez l'homme, il demeure qu'il y a une charge religieuse qui doit être remplie. Puis là, peut-être qu'elle est remplie justement par le wokisme ou par l'idéologie dominante multiculturaliste. Ce qui fait en sorte que ces gens-là sont, pour essayer de remplir peut-être le sens de leur existence, ça prend un dogme comme tel, qui est celui-là, qui est l'idéologie dogmatique, qui est celle de l'université dont tu dénonces toi-même, et qui consiste à dire, ben, tous les gens qui pensent pas comme nous, on veut pas de débat, même si on peut pas reconnaître le talent et la capacité de quelqu'un, même s'il y a un désaccord. Pourtant, pour moi, comme tu dis, l'université, ce serait censé être un débat, pour ça capable de reconnaître que même si quelqu'un est pas d'accord avec nous, même s'il est en complet désaccord, on peut reconnaître son talent, ses capacités. Moi, je serais calme autant que, par exemple, je sais pas, il y a un Hayek comme professeur, ici au Québec, même si je suis pas un libertarien. Je serais content qu'il y ait aussi des gens qui soient plus des socialistes, même des marxistes. Je voudrais qu'il y ait des néolibéraux.
Oui, du choc des idées, jaillit la lumière. Il faudra, je pense, enfin, moi je dis, imaginons qu'on doit décider les critères, parce que beaucoup de leur argent de fonctionnement, là, c'est gentil, les quelques dollars d'Ottawa, là, mais la part du lion vient de Québec. Il va falloir que Québec s'assume. Et moi, j'invite nos auditeurs à aller relire la déclaration de l'Université de Chicago, qui dit « Ici prime les idées et la quête de la vérité ». Et la quête de la vérité, c'est pas la même chose que la vérité. La quête de la vérité, c'est avoir l'humilité que quelque part, malgré tout ce choc que je crois au plus profond de mon être, ça se peut que je me trompe. Et là, ça rend le discours de l'autre acceptable. Il y a quelques coups de pied au derrière qui se perdent, là.
Je crois que oui. Alors, la quête de vérité, c'est important parce qu'on doit reconnaître que la vérité est une chose qui est comme un peu en dehors de ce monde ou qui est pas accessible à l'homme. On peut juste s'en approcher le plus possible. Tout comme la justice. Une société absolument juste, ça n'existe pas. Mais on peut s'approcher le plus possible d'une décision juste, d'une société juste.
Philippe, tu es dans le plan quinquennal. Ouais, c'est parfait. Alors, parle-nous. Justement, tu m'as parlé de wokisme. C'est des mots qu'on voit de plus en plus. Mais comme les mots qui deviennent à la mode, des fois, on voit que l'étiquette et on a oublié la description du produit. Il y a quelqu'un au Québec qui vient de publier un livre sur qu'est-ce que le wokisme, qu'est-ce que la pensée woke. C'est David Santarosa. Explique-nous ce livre-là, puis comment il a étayé l'examen de ce qui serait le wokisme.
Ben justement, pour revenir sur le mot woke, on sait que c'est comme un terme qui revient souvent de manière péjorative dans les dernières années pour qualifier ceux qui sont ultra-progressistes, qui sont dans la justice sociale, ces grands combats-là, de manière radicale. Plus souvent, ce qu'on dit, c'est que ben le mot woke, c'est juste une épithète pour insulter. Mais dans le fond, c'est complètement vide de sens. Est-ce qu'on se rend compte, et ce que nous démontre David Santarosa dans son livre, c'est qu'en fait, il y a une pensée derrière ça. Il y a vraiment une pensée du wokisme qui peut être analysée, qui on peut documenter santé. Et c'est ce qu'il a fait dans son livre. Il analyse trois œuvres qui ont marqué le Québec, notamment de ceux de Natacha Canapé-Fontaine, de Fabrice Ville, de Judith Lucie.
C'est le premier trio, là.
mais il les respecte quand même. David Santarossa demeure un interlocuteur qui est très respectueux, qui aime le dialogue. Et donc, il prend le temps de dialoguer poliment, avec honnêteté, je crois, les différentes œuvres qu'il analyse. Ce qu'il constate, c'est qu'il y a une pensée woke comme telle qui s'articule, qui a ses arguments, qui a ses idées fortes. Et puis, ce qu'il constate, c'est que souvent, il y a des idées incohérentes, puis il y a quelque chose de très dogmatique qu'il trouve là-dedans. Parce que souvent, on parle de éduquer la population, éduquer les gens. Donc, souvent, ce qu'il constate, c'est que, on va dire, si vous êtes pas en accord avec le wokisme, c'est que vous n'avez pas compris. Donc, on va vous faire comprendre. Donc, c'est un peu la même relation du maître avec l'élève. Donc, il y a quelque chose de très paternaliste là-dedans. C'est-à-dire que le woke pense avoir compris, d'où le terme éveillé. Donc, il a été éveillé à la justice et au savoir.
Il
a
éclairé les autres. Exactement. Mais ça en soi, c'est le propre de toute personne qui est convaincue du bien de ce qu'il pense. Et en soi, ça, c'est honorable. Mais là, ça va plus loin que ça, là.
Ben oui, parce que comme tu dis, évidemment que quand on a une conviction, on veut un peu la répandre. T'sais, moi qui est souverainiste, j'essaie de répandre l'idée de l'indépendance à tous mes amis, à tout mon cercle. Mais après, il faut comprendre qu'il faut aussi avoir de la bonne foi dans le dialogue qu'on a avec les autres. Il faut comprendre qu'on n'a pas absolument raison dans la manière aussi dont s'articule notre pensée. Puis c'est intéressant, comme on disait tantôt, du choc des idées, il jaillit la lumière. Mais justement, quand on parle avec quelqu'un, on peut voir les angles morts de notre pensée. Mais dans le wokisme, ce que constate David Santarossa, c'est que là, on est vraiment dans la dogmatique. Donc, quelqu'un qui ne pense pas pareil, c'est quelqu'un qui fait preuve, par exemple, de fragilité blanche. Donc, ça veut dire que c'est un blanc qui veut pas reconnaître qu'il y a des privilèges à questionner. Donc là, il y a tout un vocabulaire qui vient des États-Unis, qui s'importe ici par des auteurs qui sont inspirés par les Américains.
Oui, bien, qui sait qu'il y a une théorie complètement néo-marxiste là-dedans, c'est-à-dire que la seule manière d'identifier quelqu'un, c'est son groupe. Il n'y a pas de parcours particulier, il n'y a pas d'individu libre, il n'y a que des gens, des couleurs et des étiquettes. Point final.
Absolument. D'ailleurs, ça me fait rire, parce que je vais me permettre de raconter cette anecdote. Vous avez trouvé ça intéressant?
Vas-y, écoute, il me reste une minute.
OK,
vas-y.
C'est bon. J'étais en classe l'autre jour, puis là, il y a une fille qui présente son projet de mémoire, que je respecte. Puis elle dit, je m'intéresse aux personnes bispirituelles chez les Autochtones. Bon, bispirituelles, on peut expliquer ça un autre jour. Mais en tout cas, là, elle dit, faut que je tienne en compte le fait que moi, en tant que chercheur, je suis une femme blanche. Donc, je suis positionné socialement en tant que femme dominante sur les Autochtones dominés. Puis là, il y a notre collègue d'origine haïtienne. Il vient d'arriver au Québec. C'est son premier hiver. Puis elle dit, pourquoi vous dites votre couleur de peau? Pourquoi vous spécifiez votre couleur de peau? Pourquoi vous dites pas que vous êtes un être humain qui allait à la recherche d'autres êtres humains? Je comprends pas pourquoi vous spécifiez votre couleur de peau. Là, ça, c'est l'étudiant haïtien, là. Puis après, t'as la collègue française qui vient expliquer à l'haïtien qu'il a tort, il a pas bien compris qu'en fait, les blancs dominent toujours les racisés. Donc là, c'était le monde à l'envers. Donc les blancs expliquaient à l'haïtien qu'il y avait encore des rapports de domination, alors que l'haïtien disait, ben, pourquoi on n'est pas dans l'universalisme humaniste,
là? Ouais, puis là, ben à ce compte-là, ben il faut rejeter. Puis ça existe de plus en plus. Il y a un mouvement pour rejeter tous les auteurs blancs occidentaux. Fait que bye bye les Lumières, bye bye les Grecs, bye les récits romains. Je sais pas ce qui nous reste à la fin. Du choc des idées jaillit la lumière. Mais l'idée, leur idée à eux, c'est qu'il devrait pas y avoir de choc des idées puisqu'il n'y en a qu'une seule.
Absolument.
Et que c'est donc bien cohérent quand il y a juste une personne qui dit quoi penser. Philippe Larange, merci beaucoup. Je rappelle que tu es notre chroniqueur à la vie nationale. Et là-dessus, tu es aussi étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
Au plaisir.